Studio Tamani, voici les informations en français.
18h à Kay, la même heure partout au Mali. À la une de cette édition, la Cour pénale internationale a condamné Al-Hassan Aga Abdulaziz Aga Mohamoud, ex-membre de la police islamique à Tombouctou, à 10 ans de prison. Les victimes sont satisfaites, bien qu'elles espéraient une peine de 20 à 30 ans. Une mobilisation demandant le départ du Premier ministre s'est tenue mardi à travers le pays. Les observateurs appellent au calme après les manifestations. Le prix du charbon de bois est de plus en plus cher. Le sac est cédé entre 6 000 voire 7 000 francs CFA. Des ménageurs déplorent cette situation. Plus de précisions dans ce journal présenté par Moumine Sendebou avec la collaboration technique d'Ibrahim Sanogo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'ancien membre de la police islamique pendant l'occupation à Tombouctou écope d'une peine de 10 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le verdict de la Cour pénale internationale est tombé ce mercredi 20 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. Al-Hassan Abdulaziz Aga Mohamed Aga Mohamoud est condamné pour des crimes commis entre le 10 avril 2012 et le 29 janvier 2013 à Tombouctou. Imirana Kilumaiga nous donne plus de détails.
La chambre d'appel de la CPI a prononcé une peine individuelle pour chacun des 8 crimes retenus contre Al-Hassan. Les juges ont également évalué la gravité des crimes, y compris le degré de sa participation et de son intention, mais aussi l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes et la situation individuelle. La condamnation d'Al-Hassan est fondée sur sa contribution à la commission de crimes par d'autres membres des groupes Ansardine et d'Al-Qaïda, de son rôle au sein de la police islamique dans le système répressif entre 2012 et 2013. La Chambre a en outre rejeté la qualification générale par la défense du rôle d'Al-Hassan d'abus de pouvoir. En juin dernier, Al-Hassan a été déclaré coupable pour avoir lui-même commis directement des crimes ou y avoir contribué avec d'autres. Il a été aussi condamné pour avoir apporté son aide et son concours à la commission de crimes commis par d'autres concernant les crimes contre l'humanité, de torture et les crimes de guerre, de torture et d'atteinte à la dignité de la personne. Les juges ont aussi déclaré Al-Hassan coupable d'avoir contribué aux crimes commis. Il s'agit entre autres des crimes de guerre, des mutations et des traitements cruels.
Les victimes se disent satisfaites de ce verdict de la Cour, même si elles attendaient une peine allant de 20 à 30 ans d'emprisonnement ferme. Elles regrettent qu'aucune déclaration n'ait été prononcée sur les mesures de réparation des crimes qu'a commis Al-Hassan Aga Abdulaziz Aga Mohamed Aga Mohamoud. Suivant la réaction des membres de l'association des victimes qui a souhaité garder l'anonymat, il est joint au téléphone par Imirana Kilumaiga.
Les victimes sont soulagées, mais pas totalement, du moment où vraiment la réparation n'a pas été encore discutée. Il va falloir quand même que nous sachions ou bien nous connaissions ce qui est assorti de cette condamnation au-delà vraiment de la peine, en réalité. Et quand il y aura une réparation, c'est en ce moment que nous pourrons parler vraiment de soulagement total et de satisfaction entière. Et donc on ne dira pas plus, parce que l'essentiel c'est d'avoir vraiment justice et justice entière. En réalité, nous attendons une peine plus que ça quand même. Parce que si nous faisons une déduction du temps de détention et à cette date de condamnation, la réduction ne pourrait être que 3 ans ou 4 ans, le maximum 5 ans, hein. C'est la vérité. Une peine d'une trentaine d'années pour nous vraiment aller être judicieux, ça permettra vraiment qu'il y ait vraiment une réparation morale totale vraiment pour la ville de Tombouctou et pour l'ensemble des victimes.
Clande à ceux qui nous suivent en ce moment en live sur Facebook. Tout comme eux, vous pouvez donner vos avis sur toutes nos informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Des manifestations de soutien à la transition se multiplient à Bamako et à l'intérieur du pays. C'est après la sortie du Premier ministre le 16 novembre dernier lors des meetings du M5-RFP. C'était le cas hier à San, Sikasso et Kaï. Dans ces différentes localités, les manifestants ont demandé la démission du PM. Pour des observateurs, le moment choisi n'était pas propice. L'exécutif doit être soudé pour amener le bâton à bon port, recommande l'enseignant-chercheur Ngolo Diarra, que nous avons joint par téléphone.
Cette sortie du Premier ministre montre la complexité de la vie politique du pays. Cela explique comment aujourd'hui le pays a besoin de la démocratie, tout comme le corps humain a besoin de l'oxygène. Alors cette manifestation de la population en faveur de la branche militaire du changement anticonstitutionnel du pouvoir montre que si ces populations s'exprimaient dans les urnes, alors pourraient traduire effectivement la réalité et trouver vraiment une solution à cette difficulté de la vie politique nationale. Alors, de nos jours, les réalités sont tendues, de telle sorte que l'exécutif doit être encore soudé pour amener la transition à bon port et pour éviter le chaos.
Direction Kadjolo, une journée de sensibilisation a été organisée ce mardi par le Conseil communal de la jeunesse. Les échanges ont porté sur le sens et l'importance des panneaux de signalisation et les différentes infractions. À l'occasion de cette rencontre, des jeunes ont demandé aux responsables de l'ONT de réduire le coût du permis de transport pour les engins à deux roues et aux commissaires de veiller au respect des feux de signalisation. Je l'annonçais dans les titres, les aides ménagères venues des villages rencontrent d'énormes difficultés à Bamako. Ces filles qui travaillent un peu partout sont souvent sans nouvelles de leurs parents. C'est le cas de Awasanou qui, après 5 ans de travail sans salaire à Bamako, tombe enceinte. Une grossesse non reconnue par son partenaire. Angoissée et submergée par les problèmes, Awa a été accueillie au centre d'hébergement d'Indamali qui l'a aidée jusqu'à son accouchement et l'a accompagnée dans son village dans le cercle de Yoroso. C'est ce que nous indique notre correspondant Ali Haïdara.
C'est avec des larmes aux yeux que Hawassano rencontre ses parents à la gare routière de Yoroso après plus de 5 ans sans nouvelles. Elle nous raconte le calvaire vécu loin de son village natal.
On nous a envoyé à Sanankoroba pour travailler, cela vaut 5 ans. La dame chez qui j'étais me maltraitait. Elle m'a replacée dans un orphelinat où je travaillais plus tard. Elle m'obligeait à vendre des oranges sous prétexte qu'elle a utilisé mon salaire pour d'autres fins. Je suis tombée enceinte, l'auteur n'a pas assumé ses responsabilités. J'ai traîné dans la rue avant d'être conduite au centre Indamali où on s'est occupé de la prise en charge de mon accouchement.
Cette souffrance fut allégée après son arrivée au centre d'hébergement d'Indamali qui accepte de l'aider à retrouver ses parents et ses droits. Ali Kone, l'un des responsables de Indamali, l'accompagne jusqu'à Yoroso.
On a eu la fille à travers l'un de nos partenaires. Elle a été référée au centre d'hébergement d'Inda pour faire la recherche de sa famille. Donc après tout ça, la famille nous a montré que vraiment il veut que l'enfant soit avec eux et on a organisé son voyage.
Les parents de Hawa ne cachent pas leur joie et lancent un appel aux filles qui se hasardent dans les aventures sans l'autorisation de leurs parents.
Les filles partent en ville toutes seules. Généralement, elles n'ont même pas de logeurs et ne connaissent personne pour les assister là-bas. Nous, les parents de Hawa, sommes fiers de ce qu'ils ont fait pour notre fille.
De Rousseau, Ali Haïdara pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
À Bamako et à l'intérieur du pays, des ménageurs et vendeuses jugent le prix du charbon du bois cher. Selon elles, le sac du charbon est vendu entre 6 000 voire 7 000 francs CFA à Bamako. Dans les régions, il est cédé à environ 3 500 francs CFA. Dans la rubrique On en parle, des ménageurs et vendeuses de Bamako, Sikasso, Kita, Kolokani et Gao s'expriment sur la question.
Le prix du sac de charbon a augmenté. On n'en trouve même plus. Le sac est vendu entre 6 000 et 7 000 francs CFA à Bamako. Par le passé, on l'achetait à 5 000, voire 4 500 francs.
On achète le sac de charbon à 3 500 et on le revend à 4 000. Sinon, on pouvait l'avoir à 2 750 francs et le revendre à 3 250 francs. À un moment donné, on ne trouvait même plus du charbon de bois. Le sac se vendait à 2 500, mais aujourd'hui, c'est entre 3 000 et 4 000 francs CFA.
À Kolokani, le charbon de bois s'est fait très rare parce qu'il n'y a plus d'arbres à couper chez nous.
Le charbon est actuellement cher à Gao. Il était cédé entre 3 500 et 4 000 francs CFA. Maintenant, il varie entre 6 000 à 6 500 francs CFA.
Dans la rubrique Zoom sur, on parle des conductrices de voitures qui portent de hauts talons, mais quand il faut conduire, c'est toute une équation à résoudre pour elles, à en croire notre chroniqueuse Lale Tangara.
Ces genres de femmes croient que sans talons, on ne peut pas être élégante. Et quand il faut prendre le volant, elles ont plus d'un tour dans leur sac. Elles ne sortent presque jamais sans des tapettes à bord de leur voiture. Dina fait partie de ces femmes. Quand elle va à une cérémonie ou même au marché, elle a ses paires de secours car elle ne peut pas conduire avec ses talons si hauts. Un beau jour, sa tante Kadi lui emprunte ses tapettes pour aller faire ses ablutions lors d'une cérémonie de mariage. Et elle oublie malheureusement de les lui rendre après. Et voilà Dina dans tous ses états. Ah, tante Kadi aussi, comment elle a osé partir avec mes tapettes? Moi, je fais comment pour rentrer maintenant? Vraiment, c'est abusé. Je ne lui prête plus mes tapettes. Des femmes comme Dina, il y en a beaucoup. Alors, mesdames, beauté d'accord, mais confort d'abord.
Bien noté, Lali Tangara. C'est donc cette rubrique qui referme ce journal, chers auditeurs. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Vous pouvez aussi réécouter gratuitement ce journal-là et le magazine qui va suivre en appelant le service Kunafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Avant de nous quitter, notez que le grand dialogue de ce soir porte sur la lourdeur administrative, le dénominateur commun des services publics. Vous pourrez le suivre juste après le magazine. Merci et bonne soirée. Au Mali, la courbe de la COVID-19 et de la dengue est descendante. Cependant, des spécialistes de ces épidémies estiment qu'avec le relâchement des mesures barrières, quelques cas existent toujours dans le pays, surtout de dengue. Alors, comment pousser la population à respecter les mesures préventives? Quelles sont les mesures préconisées par les autorités sanitaires? À l'heure actuelle, comment se passe la prise en charge des patients? Deux éléments de réponse dans ce magazine santé réalisé par la Laïcha Wallet Infa.
Des usagers de Yelemane, Sikasso sont conscients de l'existence de la COVID-19 et de la dengue. Si certains témoignent avoir relâché les mesures de prévention, surtout pour le cas de COVID-19, d'autres respectent toujours les mesures nécessaires pour se protéger contre ces épidémies.
Pour nous, le coronavirus n'existe plus.
Moi, je ne me protège pas contre le coronavirus. Bon, j'adopte un peu quelques mesures préventives, prenant du maloxine une fois par mois.
Nous sommes dans un pays où les gens relâchent très rapidement. Mais jusqu'à présent, il y a des personnes qui font attention, même parmi lesquelles je fais partie. Dengue, c'est autre chose. Moi-même, je l'ai attrapé.
Docteur Yacouba Kone est le directeur de la surveillance épidémiologie à Bamako et à la direction de l'hygiène publique. Il souligne que courant l'année 2024, 0 cas a été enregistré pour la variole du singe, 3 cas de COVID-19, 802 cas sur toute l'étendue du territoire malien de dengue.
Il y a les agences de l'étendue du territoire qui font toujours la collecte et l'analyse. Et le traitement des données, qui font le dépistage des cas, qui font la recherche active des cas dans la communauté et les notifier de façon journalière et hebdomadaire et faire un reportage aussi dans ce sens-là.
Pour les biologistes, Dr Omar Campo de l'hôpital de Sikasso, aucun cas de COVID ni de la variole du singe n'a été enregistré dans le district sanitaire de la région. La dengue constitue la seule épidémie de la région et plus de 15 cas sont identifiés au centre de santé de la région chaque semaine.
Pour la dengue, aujourd'hui, on peut dire que ce cas soit une épidémie. Pas pour alerter la population, mais nous avons en moyenne par semaine une dizaine à une quinzaine de cas cliniques qui viennent chez nous au CSRF ici. Ça veut dire qu'il y a des cas communautaires qui ne sont pas diagnostiqués. Mais pour ce qui est de la variole du singe, à ce jour, il n'y a pas un cas au Mali. Mais par contre, le coronavirus, nous avons des cas depuis 2021. Nous avons eu beaucoup de cas à Sikasso, même des morts d'hommes.
Les centres de surveillance des épidémies de Yelemani, Gao et Mopti sont à 0 cas de COVID-19 et de la variole du singe. Mais les responsables de ces centres indiquent qu'il y a des cas suspects de dengue dans ces localités.
Gao, on n'a jamais notifié de cas.
Pour la dengue, on en a enregistré jusqu'au mois de septembre.
Pour 2024, nous n'avons pas recensé des cas suspects de COVID-19. Maladie dengue, nous avons recensé 151 cas suspects.
Pour la dengue, plusieurs facteurs expliquent sa persistance, nous dit Dr Al-Mustapha Issiaka Meiga.
On a ces moustiques qui sont là et on a des problèmes pour éradiquer ces moustiques-là. On a l'évolution du virus. Le virus, on a plusieurs types de virus. On va appeler dengue 1 jusqu'à dengue 4. La personne peut avoir plusieurs fois la dengue. C'est le fait que dans nos villes, on a une sururbanisation. On a l'eau qui reste dans beaucoup de surfaces.
Pour éradiquer ces maladies, les responsables sanitaires invitent les populations à combiner l'hygiène, l'assainissement et le respect des consignes pour se protéger de ces épidémies.